Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Le tarissement des cours d'eau est un phénomène qui est constaté dans plusieurs coins du pays. D'après les experts, plusieurs facteurs sont à la base de cela, notamment la coupe incontrôlée des arbres et le changement climatique. Lorsque les cours d'eau et rivières tarissent, les populations riveraines recourent aux eaux qui ruissellent et qui peuvent les exposer aux maladies d'origine hydrique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le tarissement des cours d'eau? Professeur Mutambu Shango, expert en écologie du milieu aquatique, notre invité. Alors professeur, nous parlons du tarissement des cours d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire?
Le terme est très clair. Vous avez été tellement clair qu'on n'a pas besoin d'ajouter un mot, sinon on risque d'être fou.
Non, on a toujours besoin de détails, des éclaircissements pour permettre à tout le monde de mieux bien comprendre.
Ok. Le tarissement, donc le mot tarissement veut dire... En fait, l'arrêt du coulement d'un cours d'eau. C'est ça. Voilà. Parce que l'eau, vous savez, l'eau est dit une rivière, un ruisselet ou une rigole est caractérisée par l'écoulement à longueur. Mmh. Alors, quand il n'y a plus d'écoulement de cette eau-là, de l'amont en aval, on parle de tarissement.
Voilà, quand il n'y a plus écoulement des eaux, alors cela peut être causé par quoi exactement?
Mais c'est ce que je vous avais dit. Vous avez bien lu ce qui est caché par les scientifiques. Il y a le phénomène actuel qu'on appelle le changement climatique. Parce qu'en fait, les rivières, tout comme les fleuves, les ruisseaux, les ruisselets, et même les océans et le mer sont alimentés par les eaux de pluie. Et avec le phénomène de changement climatique actuellement, ces pluies deviennent des fois rares. Et comme les pluies deviennent rares, donc l'alimentation des rivières devient aussi compliquée. Parce que les rivières sont alimentées de deux côtés. Il y a l'eau, mais de trois même. Quatre, je dirais même quatre côtés. Mmh. Il y a l'eau qui tombe directement de pluie, qui est jusqu'au niveau de la rivière. Il y a l'eau de ruissellement qui va tout droit dans la rivière. Il y a l'eau d'infiltration qui va aussi tout droit dans la rivière. Et enfin, la nappe phréatique qui alimente les eaux des rivières, des ruisseaux et même du fleuve. Alors, imaginez-vous qu'il n'y ait plus de pluie qui alimente toutes ces sources d'eau. Conséquence, les rivières tarissent. Ça, c'est la première cause aujourd'hui, c'est le changement climatique. Mmh. Et le deuxième, c'est que vous avez dit aussi, c'est la destruction des arbres et les constructions anarchiques. Vous comprenez? Mmh. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a destruction des arbres, c'est-à-dire que l'eau n'est plus retenue. Donc, l'eau de rétention dans le sol n'est plus retenue. Donc, il y a le phénomène de l'évaporation et de l'évapotranspiration qui augmente. Et l'eau de l'évaporation, de l'évapotranspiration viendrait d'où? Des rivières et de la nappe phréatique. Donc, on appauvrit les rivières et on appauvrit en même temps la nappe phréatique.
Oui, professeur, mais quel lien y a-t-il entre les arbres et les rivières?
Mon cher ami, nous sommes dans un écosystème. Qui dit écosystème, c'est comme une chaîne de vélo. Quand vous enlevez une dent, la chaîne ne marche plus. Vous comprenez?
Oui.
Tout organisme, tout être, tout facteur écologique a son importance dans un écosystème. Vous comprenez? Donc c'est ça. L'arbre a sa place dans le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. D'abord, l'arbre n'existerait pas s'il n'y avait pas de rivières. Et les rivières aussi sont alimentées par les arbres.
Comment?
Bon, quand il y a l'eau de pluie qui tombe, n'est-ce pas?
Oui.
Cette eau-là, au lieu de passer directement dans les rivières, ce qui entraînerait de fois des érosions et des inondations. Cette eau est retenue déjà une partie par les feuilles et ça va couler petit à petit. Donc, vous voyez déjà, ça casse l'effet de pluie sur le rivière. Prenez la rivière Kalamu, où il n'y a pas d'arbres. La rivière Makelele, où il n'y a pas d'arbres. Qu'est-ce qu'on a après la pluie?
Des inondations.
Quand il y a inondation, ce sont des ravins. Et quand ce sont des ravins, ce sont des maisons qui tombent. Vous voyez, la chaîne est longue. Je n'ai pas parlé des morts d'hommes. Vous comprenez?
Oui.
Parce qu'il n'y a pas d'arbres qui aujourd'hui jouent un rôle important dans le fonctionnement de l'écosystème, de ce qu'on appelle écosystème qu'on appelle là, à ce niveau-là, le bassin versant. Donc, il y a des conséquences néfastes qui arrivent à la mort d'hommes. C'est ça le problème.
Voilà. Donc, vous dites que les arbres servent de rétention, retiennent les eaux de pluie.
Exactement. Ouais, ça joue un rôle important. Et même l'absence des arbres, ça entraîne des érosions parce que les arbres aussi tiennent ou jouent un rôle important dans la structure du sol. Donc, ça protège le sol contre les érosions. Je suis en face de l'université de Kinshasa. Vous voyez, toutes les eaux qui viennent de Mongafula, ça tombe là-bas. Conséquence, il y a des érosions, il y a ce qu'on appelle l'avasement, et puis conséquence en bas, au niveau des triangles, ce sont des inondations qui, aujourd'hui, entraînent des conséquences néfastes sur les gens qui sont en train de construire à Bizouan sans connaître les conséquences qu'entraînent les eaux des inondations.
Alors, si vous dites que la coupe des arbres favorise l'étarissement, au contraire, s'il n'y a pas d'arbres, les eaux de pluie vont couler directement et remplir les rivières, professeur.
Mais vous avez même très bien dit, il y a un petit mot, directement. Et si c'est parti directement, qu'est-ce qui ça va rester? C'est ça le problème. Parce qu'il faut maintenir cette eau d'une façon permanente. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a inondation, et puis, à la fin, comme il n'y a rien qui retient l'eau, d'ailleurs, on appelle ça l'eau de rétention, comme il n'y a rien qui retient encore cette eau, tout passe, et puis, condition, il y a la diminution de la quantité d'eau qui va entraîner l'étarissement. C'est simple.
Voilà, nous avons un premier auditeur en ligne, Clément Daye, depuis Kananga. Vous voulez également participer à cette émission. Nous parlons du tarissement des cours d'eau. Appelez au 081-890-63-94.
Okapi Retro fait revivre les tubes des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit, avec les mix de DJ Daddy.
Comment lutter contre le tarissement des cours d'eau? Clément Daye, vous êtes à Kananga, bonjour. Alors, est-ce qu'il y a à Kananga des rivières qui ont disparu?
Je voudrais juste poser une question à l'invité. Ici, nous avions une petite rivière qu'on appelle Nganza. Alors, cette rivière-là, normalement, il y avait un petit pont que André Claudel Lubaye avait construit. Mais quand je vous parle, ce pont-là est cassé. Alors, il n'y a pas même un cours d'eau qui peut normalement nous effrayer, mais sinon, c'est une petite rivière. Mais l'inondation exagère. Il y a vraiment de l'eau, des ruissellements qui descendent de tous côtés, c'est-à-dire sur la route qui traverse pour aller au niveau de Mouimba. Et l'eau qui quitte vraiment du centre-ville qui se verse toujours dans cette rivière-là. Je vous assure, il y a parfois les maisons qui se cassent. Il y a des fois, on manque pour traverser, on enlève les chaussures et puis on traverse, je vous assure, que c'est devenu tout autre. Il y a ceux qui cultivent tout au long, leur culture s'est perdue, je dis que c'est devenu tout autre. Alors, du fait que ce n'est pas une grande rivière, une rivière seulement. Si la profondeur, on peut compter quelque chose de 80 cm, voire même un mètre.
Mais... Oui, mais Clément, il n'y a pas de tarissement. La rivière est toujours là.
Non, la rivière n'est pas là. Tantôt, on les déplace de l'autre côté. Mais sinon, il n'y a pas trop d'eau là. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire normalement. Puisque ça, auparavant, ça pouvait aider les femmes à aller nettoyer, faire la lessive. Parfois, les élèves pouvaient aller jouer là et puis se laver. Je vous assure, il n'y a pas d'eau. Pour bien dire, il n'y a pas d'eau. Donc, il faut là, ça doit être vraiment l'eau de ruissellement quand il n'y a plus. Quand il n'y a pas pluie, quand il n'y a pas plus, il n'y a rien là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire normalement pour que nous puissions arriver à réussir cette rivière pour que ça puisse continuer normalement à nous servir, puisque il y a d'autres coins où on n'a pas la réussite des zones ne sert pas. Parfois on installe les petits morceaux de tonnes pour que des tonneaux pour que nous puissions avoir de l'eau, mais cette rivière là nous servait. Qu'est-ce qu'on peut faire normalement pour que nous puissions la réussir? Merci.
Bien, merci. Joseph Pungu de Kindu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à tous les amis du monde et à notre invité.
On vous écoute.
Bon, moi, j'ai quelques regrets concernant l'explication de notre invité.
Oui.
L'invité nous a dit que non, il faut planter les arbres, tout ça, pour éviter le tarissement de l'eau. Moi, j'étais sinistré. Lors de la pluie, il y avait quelques pluies ici chez nous à Kindu qui s'est abattue vraiment pendant 2 jours, 3 jours. Nous avons canalisé de l'eau, mais ma parcelle a été écoulée. Les eaux de pluie. On avait planté les pelouses, on avait planté même les arbres chez nous. On avait mis même les sacs de sable pour empêcher un peu l'écoulement de la terre par les eaux de pluie. On ne sait pas quelle stratégie encore que l'invité peut nous donner pour éviter un peu vraiment le tarissement de l'eau. Parce qu'on ne sait pas, on a déjà tout fait pour vraiment s'épargner, éviter un peu l'écoulement et beaucoup d'inondations. Nous sommes vraiment dans des endroits où très aquatiques. Nos parcelles, vraiment, il y a trop d'eau. C'est pour ça que j'aimerais un peu demander quelques questions à notre invité qui nous donne un peu d'autres stratégies. Parce que toutes les stratégies expliquées par lui, on a déjà appliqué ça. Mais on ne voit pas la réaction. Nous ne sommes pas sauvés. Nous y serons toujours les.
Alors, Joseph, là, vous abordez un autre problème. Vous parlez vous êtes victime d'inondations. Mais aujourd'hui, nous parlons plus des tarissements, les rivières qui disparaissent, qui sont asséchées. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre?
Pour cette raison, moi, j'aimerais qu'ils nous donnent pour disparaître un peu ces rivières-là pour chez nous. En tout cas, comme nous sommes dans un endroit un peu totalement aquatique. Alors, on a déjà fait beaucoup, ce qu'il vient d'expliquer. On ne sait pas d'autres stratégies qu'on peut appliquer encore pour vraiment...
Donc, vous voulez que la rivière qui est à côté de vous, là, disparaisse totalement?
Oui, bon, on sait parce que nous sommes dérangés.
Parce que vous êtes victime des inondations. D'accord, je comprends. Professeur Mutambwe.
Professeur Mutambwe, spécialiste, comme vous avez dit, je vais donner des réponses à mes deux. Mon cher ami qui parle de Kananga... Il a même oublié, bon, peut-être qu'il n'était pas encore né, qu'à côté de l'ISP Kananga, il y avait un ravin, un tarissement d'eau, à côté, un ravin terrible à côté de l'ISP Kananga, n'est-ce pas? Et à Kelekele, peut-être avant sa naissance. Et la rivière dont tu parles ici, je connais encore la rivière très bien.
La rivière Nganza?
Oui, je connais, mon cher ami. Donc, pour avoir étudié moi-même, hein, vous parlez aujourd'hui des spécialistes en écologie, oui. Mais sachez que j'étais aussi philosophe. J'ai fait la philosophie au grand séminaire à Kananga.
D'accord.
C'est comme ça, de temps en temps, je n'ai pas la diarrhée verbale, mais quand même, je parle un peu plus. Non, c'est justement, ce sont les effets. La rivière est partie. Il y a tarissement de la rivière, mais son bassin versant existe. C'est-à-dire, sa vallée existe. Et alors, comme il n'y a pas d'arbres, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? C'est l'eau de ruissellement qui vient, c'est l'eau d'infiltration, conséquence, inondation, conséquence, destruction, donc érosion, conséquence, destruction des maisons. Et je pourrais vous dire que l'ISP Kananga devait même tomber à un moment donné pour des conditions-là, parce que construction anarchique, l'héritérissement de la petite rivière qui passait à côté. Donc, heureusement, aujourd'hui, on s'est battu. J'ai vu, je n'ai pas cherché le pourquoi. On s'est battu, il n'y a plus d'érosion à côté de l'ISP Kananga. Donc, c'est ça le problème, justement. Les gens se ruent à construire sans étudier toutes les conséquences, tous les impacts écologiques sur le non-fonctionnement des systèmes des écosystèmes aquatiques.
Voilà, vous avez suivi Joseph Dekindou habite à côté, il dit qu'il habite.
Je l'ai suivi.
Oui.
C'est moi, je dis, c'est la même chose qu'ici. Vous arrivez à Debonom, à Kinshasa, zone que l'Européen, le Belge, n'a pas autorisé à construire. Nous construisons, mais on construit au-dessus de l'eau. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit qu'il y a la nappe phréatique. Venez au triangle à l'université. Les gens savent qu'ici, c'est une zone humide. L'eau se trouve à un mètre du sol. Et puis, les gens construisent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?
Hein? Voilà, ils souhaitent que la rivière disparaisse, hein, Taris, pour qu'il soit plus victime des inondations.
Ce qu'il doit souhaiter, c'est ça, Ozanga Koyeba, comme dit Kofi, Ezaliwa. Il y en a mon thème, Ezaliwa. C'est ça le problème. Vous allez habiter dans une zone humide. Kindou, le Maniema, ça fait partie de ce qu'on appelle zone humide. C'est la prolongation, ça va même jusqu'au parc de Virunga et tout qu'on sort. Parc de Salonga, qui constitue la plus grande zone humide du monde. Mais vous allez construire dans une zone humide. Et au demain, il y a inondation, vous allez regretter. Mais qui vous a dit d'abord d'aller construire là-bas? C'est comme je vois ici, à Debonom, comme je vois ici à l'université. Vous construisez anarchiquement. Quand il y a des dégâts, l'État est allé là-bas,
Voilà, comment lutter contre le tarissement des cours d'eau? Voilà, d'autres personnes souhaitent que les rivières et les cours d'eau tarissent parce qu'elles sont victimes des inondations et pourtant il faut les protéger. On va accueillir Ignace Ndala qui nous appelle de Kolwezi. Bonjour Ignace.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Je suis très intéressé par les sujets parce que je suis à plus ou moins 50 mètres d'un ruisseau, hein. Alors, c'est un ruisseau qui tarit presque pendant la saison sèche. Il reste juste quelques poches des temps, hein. Alors, je me dis, cette pratique qui consiste à placer le long du ruisseau des bananiers, les tarots et toutes autres sortes de plantes comme les avocatiers, est-ce pas un bon système pour, d'un côté, laisser le cours d'eau survivre, permettez-moi l'expression, et de l'autre côté, laisser s'assécher un petit espace pourvu que les gens y mettent de petits jardins ou carrément creuser, approfondir la tranchée et laisser l'eau couler et assécher les abords pour permettre aux gens de trouver le matelas et autres choses. Je voudrais savoir si c'est une bonne pratique. Et une autre question, quels sont les types de plantes que l'on peut mettre pour conserver un cours d'eau afin que le tarissement n'arrive pas?
Merci. D'accord. Denis Moïnda de Gbadolité, bonjour.
Oui, bonjour, c'est journaliste.
Quelle est votre question, Denis?
Oui, j'ai seulement trois petites questions à poser à notre invité. La première question est celle-ci. Quel signifie le mot étiage? Et la deuxième question, quel est l'outil usuel pour prévenir le débit du tarissement? Et puis la troisième question, qu'est-ce qui signifie la piézométrie?
Voilà, la troisième question.
Qu'est-ce qui signifie la piézométrie?
La pluviométrie.
Non,
piézométrie.
Voilà, piézométrie. Merci. Oui. Professeur Mutamboué, Ignace Ndala dit qu'il a, il habite non loin d'un ruisseau, hein, qui tarit souvent pendant la saison sèche. Faut-il planter des, est-ce qu'on peut planter les arbres tout autour pour prévenir ces tarissements saisonniers?
Non, mais il y a vous savez, je suis très heureux d'attendre cette question qui est très intelligente. Mon cher ami, je suis très à l'aise pour vous répondre. Il y a ce qu'on appelle la gestion des zones humides. Il y a même une convention internationale qu'on appelle convention de Ramsar pour la protection des zones humides. Que nous, Congolais, nous ne respectons pas, surtout les Kinois. Quand je vois aujourd'hui la zone de Sekomaf, qui était une des zones grenières de Kinshasa, disparaître, transformée en zone habitable. Non. Il y a donc la gestion et l'aménagement des zones humides. Et je tiens même à dire à notre
auditeur
que l'Union européenne aujourd'hui a donné je ne sais pas combien de millions d'argent justement pour nous permettre à mettre en exergue cette gestion de zones humides parce que c'est exploité de manière abusive. Donc, moi, si vous arrivez chez moi, j'utilise aussi les zones humides, mais j'essaie de l'utiliser de façon intelligente. C'est-à-dire quoi? J'ai fait la pisciculture, tout en faisant la pisciculture, j'ai fait l'agriculture, donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Je suis à côté, il n'y a pas de problème, je n'ai pas d'inondation chez moi, parce que la zone humide continue à garder son caractère humide, et j'exploite les cultures, n'est-ce pas? J'utilise le poisson. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que cette zone soit humide. Donc, c'est lui aussi, c'est la même chose s'il devait faire ça sans le savoir. Je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes à côté de la rivière Ndjili, ce qu'on appelle au pont, ce qu'on appelait le village Silo, et en face, vous avez la partie du quartier 1. Si vous arrivez au village de Silo, il n'y a pas un insecte, il n'y a pas un oiseau. Mais quand vous regardez en face, vous avez des oiseaux, vous avez des insectes, vous avez des herbes, professeur, vous avez des poissons.
Professeur Mutamboué, le fait de planter les arbres le long du cours d'eau, d'un cours d'eau et la pelouse à côté, est-ce que cela va permettre à une rivière qui tarissait déjà d'être reconstituée?
Ça ne sert à rien de planter la pelouse. Ça ne sert à rien. Vous savez, ici chez nous, il suffit de laisser la nature telle et telle comme telle et ça se reconstitue. Même les arbres. Je vois aujourd'hui qu'on met des millions d'argent pour planter les arbres. La mise en défense même des savanes, les arbres vont pousser de soi.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour lutter contre cet tarissement?
Ce qu'il faut, c'est qu'il faut respecter la nature. C'est tout. Respecter la nature.
Ici, en faisant quoi exactement?
La nature abusivement, s'il vous plaît.
Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour respecter la nature, professeur, afin d'éviter les tarissements des rivières?
Exactement. Au lieu de couper les feuilles d'arbres que l'on trouve, là-dessus, il faut les garder que ça pousse. Au lieu de construire, laisser la terre tranquille, ne construisez pas, laissez la nature va se reconstituer. Ok? Il ne faut pas dire oh, je vais mettre les sacs de ceci, ce sont des bêtises. Laissez la nature et tout va se reconstituer dans les règles de l'art.
Voilà. Un autre auditeur a posé la question. Il veut savoir c'est quoi l'étiage.
L'étiage, donc, vous savez, c'est la période où il y a peu de pluie. Donc, la rivière ou les ruisseaux et tout consort perd une quantité d'eau. N'est-ce pas? C'est ici, chez nous, il y a des conditions normales, c'est à partir du fin mai jusqu'au mois de 15 septembre. Cette période-là, pour les rivières, ça s'appelle la période d'étiage.
Alors, c'est une sorte d'étarissement de la rivière.
Ce n'est pas l'étarissement, c'est l'étiage. C'est différent. L'étarissement, c'est l'eau, il n'y a plus rien. Mais l'étiage, c'est un phénomène naturel soutenu par les eaux de la nappe phréatique. Parce qu'il n'y a pas d'eau, le stock qui est dans le sous-sol, donc qu'on appelle nappe phréatique, c'est ce qui alimente cette eau-là du niveau étiage. Donc c'est un fonctionnement normal.
Voilà. Et il dit, quels sont les outils pour prévenir l'étarissement des cours d'eau?
Mais je dis, j'ai laissé la nature tranquille au lieu de faire de n'importe quoi. Comme font les Kinshas. Les Kinois, il va trouver une maison au niveau de ses comas, puis il va dire, j'ai construit ma... Mais quand il y aura inondation, quand la rivière Ndjili va s'effacer, il va regretter. Mais laissez cette nature comme telle. Faisons ce que même les Chinois ou les Français nous ont appris à développer l'écriture maraîchère, et tout serait bon. Est-ce que vous avez entendu à l'époque où il y avait ce qu'on appelait la ceinture verte à Kinshasa? Les gens disent, oh, l'État y a côté de la Bissouli Kamboyo. Non, parce qu'à l'époque, on respectait les conditions nécessaires pour le maintien de cette zone humide. C'est ça.
Voilà. On va accueillir Pacifique de Lubumbashi. Bonjour. Pacifique, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, Nancy. Et ainsi que tous les auditeurs de la radio Capi.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, le vrai problème, j'aurais voulu aimer que notre invité nous donne des réponses ou des explications sur ce sujet et qui est son fils d'une personne. Alors, quand vous quittez Lubumbashi, vous allez vers l'Arc de Likasi à 47 km, les villages de la Bembo. Je vous assure qu'il y avait une rivière qui était une grande rivière, tout ça, qui était en train de détruire tous les villageois de cette partie de la province. Mais quand le chef coutumier est décédé, la rivière a disparu complètement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de rivière. Et il y a des organisations comme l'Église mondiale qui étaient parties là-bas pour essayer un peu des forêts, et afin de donner les gens de l'eau de forage, ils n'ont pas su parce qu'ils ont dit que l'eau s'est rétrochée jusqu'au-delà de 100 mètres.
Oui, Pacifique, vous dites que le chef coutumier a fait disparaître la rivière.
Les jours qu'il est mort, la rivière a disparu aussi.
Les jours que le chef coutumier est mort, la rivière a disparu. Donc aujourd'hui, on la retrouve plus.
Il n'y a plus de rivière là-bas. Oh. Et vous pouvez aller spécifier ces allégations, c'est correct, c'est juste.
Et comment s'appelait cette rivière?
C'était au village de la Tembo. Donc à 45 km de la ville de Lubumbashi, sur Afrédicati Lubumbashi. Alors, ça c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, les professeurs ont dit que les gens sont en train de dire l'État c'est la mission du Cameroun. Oui, parce que c'est l'État qui leur donne des titres, tout ça, de construction et tout et tout. Et aussi la ville de Lubumbashi, les centres villes de Lubumbashi, est construit sur la nappe aquifère. Mais nous n'avons jamais vu des roulements des maisons, nous n'avons jamais vu ceci ou cela. Quand vous allez à Zanzibar, on construit dans l'eau, vous allez à Dubaï, n'en parlons même pas. Qu'est-ce que l'invité peut nous dire à ce propos?
D'accord, professeur Mutambouya.
Oui.
Il dit
la première chose, c'est-à-dire je n'accuse personne, je sais que dans toutes les villes du Congo, les Belges ont laissé des plans d'aménagement. Pour la ville de Kinshasa, par exemple, que je suis de plus près, il y a des coins où ils n'étaient pas autorisés de construire. Je prends l'exemple de Makala, même la partie qui est en face de l'IPN. Jamais autorisé. Et les gens ont construit même à côté des sénatoriums avec toutes les conséquences. Donc, que ce soit à Kinshasa, Kananga et tout, qu'on soit, le plan existait. Où sont partis ces plans, je ne sais pas. Les deux, est-ce que dans le ministère d'aménagement et tout, console, IPTR et tout, le plan d'aménagement, aujourd'hui, est-ce qu'on a revu ces plans? S'ils n'ont pas revu, comment est-ce que ces gens habitent? Est-ce qu'ils habitent légalement? Ça, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, je sais que les gens vont habiter. Je travaille avec les étudiants au niveau Massina. Hier, ils faisaient le riz. Aujourd'hui, c'est devenu des maisons d'habitation. Donc, occupation anarchique. Nous sommes responsables des non-bêtises.
Voilà, et c'est cette occupation anarchique, c'est ça qui favorise le tarissement des cours d'eau, professeur. Alors, il nous dit, il nous parle d'une histoire rocambolesque.
Mystique.
Voilà. La mort d'un chef coutumier.
C'est possible. Je n'ai même pas en doute tout ce qu'il a dit. Oui. C'est possible. C'est possible. Mais je sais, est-ce que ce n'est pas dû au fait que les chefs, peut-être, qui protégeaient son milieu étant disparu, tout le monde commençait à occuper son terrain ou sa terre de manière anarchique. Parce que, imaginez-vous, nos chefs n'étaient pas des cons. J'ai travaillé au Mayom, je connais, même pour aller l'eau de consommation, je préfère boire l'eau du village que l'eau de la régie des eaux. Parce que le chef savait que la source est là, il laisse les arbres, il laisse tout, parce qu'on sait qu'il y a l'eau d'infiltration, cette eau-là du sol, cette eau-là c'est de l'eau pure qui va arriver à la nappe phréatique qui va alimenter ensuite la source. Dans tous les villages, j'ai demandé à tous les chefs, ils font ça. Mais si aujourd'hui vous détruisez les arbres, vous détruisez cet écosystème-là, c'est sûr que vous aurez des problèmes avec vos sources d'eau.
Voilà, professeur, il dit que, pour terminer, il dit mais Dubaï est construit, on construit à Dubaï sur, dans l'eau, on aménage des constructions.
Juste, mais il y a un petit mot, mais c'est là où je vous aime, parce que vous avez des mots justes. On aménage. C'est ça, là, le mot aménage. Est-ce que nous aménageons? Nous. Vous comprenez? Dites-lui, l'aménagement s'est fait où?
Voilà. Merci, professeur. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes expert en écologie du milieu aquatique. Professeur Moutambo Chango, merci et à la prochaine.
Mais c'est moi qui vous remercie, mon cher ami.